Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va essayer de reprendre un peu le fil de nos pensées, donc sur les psychotropes et plus particulièrement sur les sédatifs. Mais là où on en est arrivé, je voudrais un petit peu vous donner quelques éléments sur la maladie mentale qui concerne les neuroleptiques. Comme vous vous rappelez, c'est essentiellement dans la psychose qu'ils peuvent intervenir, non pas pour la guérir, je crois que ça on ne sait pas vraiment le faire, mais simplement empêcher les symptômes de s'exprimer, voilà, par la chimie en somme. Il y a d'autres méthodes, c'est par la parole bien sûr, mais c'est quand même pas très facile, il faut quand même le reconnaître. Donc juste avant que je démarre, j'ai apporté les polycopes qui ont été commandés la semaine dernière. Donc voilà, ils vous attendent, là, je crois encore, il y en a deux au moins. Il y a votre nom dessus. Et puis, par avance, enfin même après coup, je vous demande de m'excuser, j'ai une page qui a sauté, la page 20, je crois. Et il se trouve que c'est la recette de la thériaque. Alors, donc je vous la tirerai par ailleurs. Et puis l'idéal, parce qu'il y a une page blanche à ce moment, sur cette page, l'idéal ça serait que vous la recopiez comme une recette, mais à votre façon, quoi. Vous pourrez enlever des morceaux. Ou sinon, vous la collerez, je la mettrai au format pour que ça ne pose pas de difficultés. Non, c'est un blanc. C'est un blanc, c'est un oubli, ou en tout cas une disparition. Voilà, alors peut-être vous posez la question de qu'est-ce que c'est que la psychose. Alors, je vais essayer de faire un tout petit flashback, je ne vais pas vous faire un cours de psychiatrie, je vais simplement vous donner quelques indications sur ce qu'est la psychose, et puis je vais vous donner un petit peu de lecture d'un texte en particulier qui permet un petit peu de vivre qu'est-ce que c'est que la psychose. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que la psychose, eh bien, procurez-vous du LSD et puis chargez la mule et vous aurez 8 heures d'état à peu près psychotique en espérant que ce soit agréable. Bien souvent pour les psychotiques, c'est moins agréable, quoi. C'est ce qu'on appelle, donc, quand c'est agréable dans le milieu underground, on appelle ça un trip, c'est-à-dire un voyage, quoi, en gros, un voyage assez érotique, assez sympathique. Et puis, quand ça tourne mal, c'est plus du côté du cauchemar, alors c'est un bad trip, tout simplement, hein. C'est-à-dire bon, un peu la descente aux enfers. Tout dépend de notre état psychique, en gros. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Mais ça, on le verra que dans 3 ans, si Dieu nous prête vie, quoi, en gros. Donc alors, peut-être la première chose à dire, c'est, avant de parler psychose, il faut peut-être juste donner quelques indications sur le concept de structure psychique. Voilà, c'est-à-dire, en gros, alors je ne vais pas prendre l'exposé de ce qui pourrait se faire en psychiatrie actuellement, qui est plutôt cognitiviste, et qui est donc sous la férule du DSM-4 actuellement. Donc je vous ferai des allusions au DSM-4. Je vais vous donner quelques indications qui correspondent à ma formation. C'est plutôt une formation proche de ce que Freud enseigne, ou enseignait à une époque, en tout cas à exposer. Voilà, alors donc, en gros, on va dire que pour comprendre un certain nombre de phénomènes, on peut émettre l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui dépasse notre raison, qui dépasse notre conscience, et Freud l'a appelé, après beaucoup d'autres auteurs, un inconscient. Et cet inconscient, eh bien, il prend place, alors je ne sais pas bien comment il faut le dater, mais disons qu'à la naissance, il y a un certain nombre de choses qui se déroulent, et là, peu à peu, bon, il va s'exprimer plus ou moins bien, et à ce moment, cette instance, de cet appareil psychique qui est vraiment rudimentaire, il va subir un certain nombre de contraintes qui va l'amener à abandonner ce qui le mobilise, c'est-à-dire le principe de plaisir, un petit peu au profit du principe de réalité. C'est-à-dire la réalité très dure, comme vous le savez. Il y a tout un tas de choses qui ne nous font pas plaisir. Et le nourrisson est tout le temps en train d'essayer de résoudre ce problème. Voilà, j'ai tout un tas de choses qui me font plaisir. Malheureusement, ça s'écarte de moi. La mère n'arrive pas quand il faut. J'ai faim, j'ai mal, etc. Et il faut supporter un certain nombre de choses. Voilà. Donc, on va dire que pour faire très très simple, un certain nombre de structures se mettent en place. Alors, bien sûr, il y a les structures nerveuses qui sous-tendent tout ça, mais pour arriver à comprendre un petit peu la conscience et puis l'inconscient, ça ne suffit pas de connaître la structure du cerveau et les fonctions nerveuses. Probablement, cet inconscient et cette conscience émergent du travail du cerveau. Je doute absolument pas de ça. Mais peu à peu, l'appareil psychique, qu'on appelle aussi plus facilement la psyché, ou l'appareil à penser, comme vous voulez, et si vous êtes croyant, vous pouvez appeler ça l'âme, c'est pas très loin, c'est différent. Concepts sont pas très différents, simplement, si vous pensez à l'âme, bien entendu, on n'est plus dans le monde scientifique. Puisque l'âme est une et indivisible, donc on ne peut pas l'étudier. Voilà. Donc ça renvoie à un acte de foi, donc ça ne nous concerne pas. Par contre, si on pense à l'esprit, donc avec plusieurs instances, l'inconscient, comme je vous le disais, le conscient, et puis entre les deux, quelque chose qu'on sait sans le savoir tout en le sachant, c'est ce qu'on appelle le préconscient, alors à ce moment, déjà, on a déjà trois éléments qui bien entendu vont se correspondre, et donc déjà on peut fractionner, et si on peut fractionner, c'est-à-dire un biologiste peut déjà commencer à faire des tris, des classements, observer des choses, il peut expérimenter. Alors, je vais vous faire un peu rapide, mais l'enfant va en quelque sorte avoir une structure de son appareil psychique qui va devenir de plus en plus complexe pour tenir compte de la complexité du monde qui l'environne. Alors, cette complexité, vous la connaissez, en particulier pour l'enfant, il faut qu'il arrive à intégrer les relations sociales et puis le langage. Alors ça, c'est pas de la tarte. Pour ceux qui en doutent que c'est pas très facile à manœuvrer, essayez d'apprendre le japonais, là. Vous allez voir. C'est pas assez fort. C'est très difficile. Or, tous les enfants humains parviennent à apprendre le langage de leurs parents en une année à peu près. Voilà. Et à parler en un an et demi. Voilà, donc c'est un exploit, mais bon, ça nous renvoie à tout un tas de choses. Donc, on a une structure, on va dire un appareil à penser, qui se met en place, qui se développe, et il y a plusieurs phases, on va dire. Avant, on parlait de stade, maintenant, on ne parle plus de stade, on parle de processus. Et pour faire très très rapide, on va dire que les premières structures ont des allures de structures psychotiques. Et qui, ces structures, on le voit très facilement quand on observe, s'expriment par des angoisses. Des angoisses vraiment terribles, terrifiantes même. C'est la peur de disparaître, la peur de tomber, la peur de s'effondrer, etc. Et voilà, ça correspond à des états que le nourrisson ressent intensément. Heureusement, il y a sa mère qui est secourable. Alors, quand on dit mère dans cette façon de penser, on met un M majuscule, et la mère, c'est tout adulte qui vient en quelque sorte secourir cet enfant qui est en détresse. Voilà, et donc, alors là je reprends non pas Freud mais Winnicott, la mère est capable d'entourer son enfant, de le caresser et puis de le nourrir. Voilà, c'est ce qu'on appelle le handling, le holding. Handling, ça veut dire bon, on le tripote, on le nettoie, on fait bon, tout ce qu'une mère sait faire. Une mère avec un M majuscule, donc mâle ou femelle, que ce soit mère ou père biologique ou pas, ça n'a pas d'importance. Hein, une nurse fait aussi bien, à peu près. Enfin, bon. Restons dans, à 10 000 d'altitude. Et à ce moment, le dernier élément, handling et holding, c'est le portage, hein, c'est-à-dire, bon, vous savez comment on porte un nourrisson, hein, on met la main sous le fondement et non pas l'attraper comme une poupée, quoi, sinon il a l'impression vraiment de se casser la gueule en permanence et là, c'est, on lui tient la tête, etc. Enfin, il y a tout un tas de gestes qu'on appelle en anglais le holding, qui a été bien expliqué par Winnicott. Donc le handling, c'est tous les soins au corps, disons, avec la main, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire tout ce que la main fait. Et puis enfin, le nursing, c'est tous les soins que fait une nurse, en quelque sorte. Alors ça nous amène à pouvoir dépasser ces angoisses d'effondrement, si vous voulez. Et alors, peu à peu, les structures peuvent évoluer, et à ce moment, l'enfant est un peu contraint de se détacher de sa mère. De la mère, disons, pas sa mère, mais la mère, c'est-à-dire l'adulte, l'humain qui s'occupe de lui et qui pourvoit tous ses besoins, puisque c'est une larve et que donc il a besoin de tout un tas d'éléments, non seulement des éléments biologiques, l'hygiène, de la nourriture, de la boisson, des soins, et puis aussi de relations sociales. Et peu à peu, la mère va être un petit peu se détacher de cet enfant sous la pression du père, voilà, de quelqu'un d'autre qui attire la mère, M majuscule, hein, en disant, bon, ben voilà, j'ai mon boulot, ou bien, bon, finalement, plutôt que de m'occuper d'un nourrisson, je préfère m'occuper d'un amant, ou je ne sais quoi, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors, progressivement, bien sûr, les structures s'adaptent à cette triangulation, parce que de deux, on passe, de la dyade, on passe à la triade, et à ce moment, bien entendu, il est un peu laissé pour compte, et donc, ben, il doit encaisser ce principe de réalité, quoi, voilà, c'est-à-dire, il n'est pas tout puissant, contrairement à l'étape précédente. Et alors, si on fait encore un petit peu plus avant, alors à ce moment, il va avoir de nouvelles angoisses, parce que bien entendu, il commence à dire, oula, mais ce mec il tourne un peu trop près de ma mère, etc. Et finalement, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Œdipe, hein, donc, c'est-à-dire l'enfant devient, si c'est un garçon, plus ou moins amoureux de sa mère, il devient jaloux du père, et puis progressivement, il s'aperçoit que de toute façon, rien n'y fait, et alors il accepte la situation, et il se met à s'identifier plutôt au père, et puis, etc. Bon. Mais quand même, le père est quand même toujours un peu redoutable, et à ce moment, les angoisses ne sont plus d'abandon, d'effondrement, mais d'une autre nature. Cette fois, les angoisses vont être plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle la castration. C'est-à-dire, bon, il est peut-être méchant, et puis peut-être qu'il va m'en enlever un morceau, quoi, hein, en gros. Voilà. Et donc, alors à ce moment, bien entendu, c'est tout à fait autre chose que de perdre la vie dans son ensemble. C'est de perdre, peut-être, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas comment les nommer, hein, c'est les bijoux de famille, si vous voulez, ou les biens les plus précieux, ou je ne sais quoi, ou bien même perdre l'amour de la mère, et que de ce fait, à ce moment, on commence à se représenter la structure mentale du jeune enfant, qui va avoir 4 ans et demi, quand même, hein, là, 4 ans et demi, 5 ans, à cette époque, et qui va être sur un autre versant que la psychose, mais cette fois, la névrose. Voilà. Et cette névrose, bien entendu, elle peut se passer très bien, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je pense qui s'est passé pour vous, mais des fois, ça ne se passe pas tout à fait aussi bien, et alors, à ce moment, bien sûr, vous devez connaître deux grandes familles de névroses qui sont célèbres, je vais en donner juste deux, l'hystérie, d'une part, et puis la névrose obsessionnelle, d'autre part. Voilà, et donc, si je reviens à Freud, ben, c'est finalement par ce bout-là qu'il a attaqué l'étude de l'appareil psychique, c'est avec les hystériques. Hein. Et donc, les hystériques, puis ensuite les névroses obsessionnelles, lui ont permis d'explorer les névroses. Et il s'est pratiquement jamais aventuré dans les psychoses, en pensant que sa méthode, on va dire analytique, c'est une psychanalyse, n'était pas adaptée à prendre en charge des personnes psychotiques. Mais quand même, je vais vous dire tout de suite après, il a quand même un petit peu défriché le terrain, donc on va essayer de parler de ça. Donc, si vous m'avez suivi, vous devez comprendre que les humains ont une structure mentale ou un appareil psychique, comme on veut, et que certains vont aller dans la pathologie, c'est-à-dire tout le monde est tous un peu fous, hein, de toute façon, on l'est, comme si vous vous rappelez bien de l'année dernière, on l'est tous au moins pendant une heure et demie par nuit, hein, de toute façon. Mais bon, comme il y a une atonie musculaire, ça gêne vraiment personne, hein, de toute façon. Voilà, on peut délirer tout ce qu'on veut, on peut s'autoriser n'importe quoi. La preuve, c'est que ça laisse des traces. Hein, au réveil, vous pouvez le constater. Bon, ça n'a pas d'importance. Par contre, quand on commence à parler de pathologie, c'est que vraiment ces angoisses d'effondrement ou d'abandon ou de je ne sais quoi, de perte de l'objet, sont vraiment paralysantes, et paralysantes même pour l'appareil à penser. Ça, c'est la psychose. Et puis, quand il y a tout un tas de comportements de séduction, mais qui, lorsque cette avance est prise au sérieux, alors à ce moment, c'est vraiment trop flippant, et à ce moment, la personne se retire. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle l'hystérie. Et puis quand vraiment vous avez des obsessions, alors bon, il y a différents termes, mais on peut dire que c'est des névroses obsessionnelles et qui correspondent un petit peu à une sexualité qui est un petit peu plus du registre de l'analité plutôt que la génitalité, en gros, pour faire très très simple. Donc, vous pouvez voir qu'il y a au moins deux pôles dans les structures mentales, psychose d'une part, névrose d'autre part. Donc, c'est la psychose qu'on va explorer. Et puis, peut-être pour finir, il y a quand même, depuis peut-être une trentaine d'années, on commence à trouver des structures qui sont hybrides, qui passent très facilement d'une structure psychotique à une structure névrotique et inversement. Voilà. Et on ne sait jamais dans quelle catégorie les placer. C'est-à-dire, quand on suit la personne, parfois elle se comporte comme si elle était victime d'angoisse névrotique. Et puis, quelques instants après, elle peut très bien se présenter comme victime d'angoisse psychotique. Voilà. Alors à ce moment, comme les lignes bougent sans arrêt, les auteurs américains appelaient ça les patients borderline. Voilà. Ou en français, traduit, c'est dit les états limites, en gros. Voilà. Alors bon, je ne vais pas insister parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des psychotropes qui puissent régler les questions de cet ordre. Alors, peut-être maintenant que vous avez donc ces trois éléments, psychose d'une part, très, très archaïque, on va dire, et puis très élaborée, névrose, avec, pour certains sujets, oscillement entre ces deux positions, pour des difficultés que bon, je ne peux pas vous le développer. Donc, je vais essayer de vous donner un petit historique qui va vous donner quelques idées de comment ces idées se sont mises en place progressivement à partir de 1800 et quelques, quoi, hein, c'est-à-dire pendant cette période qui couvrait les thérapies de choc qu'on a vues la première séance. Voilà, alors, bien entendu, comme personne ne comprenait rien à rien, il y avait des manuels ou des articles qui étaient publiés. Et puis, dans tout ce fatras, il y a différents auteurs qui ont avancé des arguments, qui ont fait mouche, où la communauté scientifique du monde médical à cette époque, hein, si on pouvait les nommer, c'est les aliénistes ou ce qu'on appellerait maintenant les psychiatres, ont commencé à pouvoir suivre ce raisonnement, et c'est un petit peu ce que je voudrais vous donner avec quelques détails, si vous voulez. Donc pour ça, quelques transparents. Alors voilà, un petit peu là, c'est la genèse du concept de schizophrénie. Alors, vous voyez, 1851, Morel, donc, publie l'étude clinique sur les maladies mentales en donnant les premières descriptions de l'aliénation dans l'évolution et l'idiotisme et la démence. Voilà, c'est-à-dire, bon, ceux qui sont idiots, en un mot, c'est-à-dire pas intelligents du tout, et puis ceux qui sont déments, c'est-à-dire, bon, voilà, ça veut dire qu'on agglutine, finalement, des caractéristiques d'avoir des faiblesses dans la mémoire, des faiblesses dans la pensée, et ça veut dire qu'on isole de tout un tas de choses. Hein. Mais 1851, donc c'est à l'époque de Pinel, en quelque sorte, et c'est déjà un premier tri. Ensuite, 1900, alors Jules Seglas, dans la démence paranoïde, sépare la démence paranoïde de la démence précoce. Voilà, c'est-à-dire, bon, il fait des études cliniques, c'est-à-dire il observe des patients, et puis il dit, mais quand même, il y a quand même, dans la démence, deux grands types de démence. Celle qui est paranoïaque, alors bon, on va le définir un tout petit peu plus tard, et puis celle qui est plutôt précoce, et précoce, ça laisse entendre, surtout si on sait ce qui va se passer après, des adultes jeunes, ou même des adolescents, maintenant on dirait. Hein. C'est-à-dire, précoce, c'est en ça, c'est que c'est vraiment vers l'âge de 17-18 ans que ça se déclare. Alors, il arrive à bien cerner que c'est différent. Et bien entendu, c'est le fondement de cette catégorie qui regroupe les deux, la psychose, la paranoïa d'une part, et puis la schizophrénie d'autre part. Ça va, la démentia précoce va être, en gros, conservée telle qu'elle a été définie par Seglas pour représenter la schizophrénie. On va le voir. Alors, 1903, là, c'est une histoire assez formidable. C'est un magistrat. Alors, je crois que c'est en Allemagne ou en Autriche, je ne sais plus, enfin, il est de langue allemande, et qui a gravi tous les échelons de la hiérarchie judiciaire, et à un moment, il est nommé président de la Cour suprême, enfin, ou l'équivalent, quoi, vraiment, et là, c'est une charge épouvantable, et là, il fait ce qu'on appelle en psychiatrie une décompensation. C'est-à-dire, il allait parfaitement bien. La preuve, c'est qu'on lui donnait des responsabilités de très très haut niveau, mais à un moment, il était arrivé, je veux dire, selon la description moderne, à son principe de Peter, c'est-à-dire à son maximum d'incompétence, et la charge était tellement forte que là, il s'est vraiment effondré. Et là, vraiment, il a décompensé, c'est-à-dire sa structure mentale, c'est complètement fondillé. Alors, l'image, oui. L'image qui vient, là, c'est exactement ce qui se passe à Port-de-France. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a quelques jours, une semaine, disons, il y avait une ville, bon, bien sympa, avec, bon, pas quoi. Puis à un moment, la charge des plaques tectoniques étant tellement, tellement irrésistible que tout a été balayé. Ben voilà, la structure mentale, vous pouvez la représenter un peu comme ça. À un moment, alors que rien de très particulier se passe, ça explose de tous les côtés et ça s'effondre. Voilà, alors ça, on appelle ça une décompensation. Et la personne, on ne peut plus la reconnaître. Quoi, elle ne sait plus ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Non. Et là, le brave Schreiber, président Schreiber, comme on va l'appeler par la suite, est pris en charge dans un hôpital Et le médecin qui le prend en charge, eh bien, essaye de faire ce qu'on fait à cette époque. Voilà. Il fait du mieux possible pour le rassurer. Et bon, il rattrape un petit peu ces éléments de structure. Et je ne sais pas par quel miracle, il a une idée en tête, c'est de dire, il faut absolument que je me rappelle de tout ça et que je l'écrive. Et il finit par l'écrire. Et il écrit un livre qui s'appelle « Mémoire d'un névropathe ». Voilà. Et dans son introduction, il explique très bien qu'il a des souvenirs très très précis de ce qu'il a vécu, et il le raconte, et qu'il va s'efforcer de l'écrire afin que les médecins puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé en lui. Voilà, hein, il est d'une grande intelligence, d'une grande mémoire, et il y aurait suffisamment de ressources pour arriver à faire un peu un manifeste de qu'est-ce que c'est qu'un fou, quoi. Hein. Alors, à cette époque-là, bon, il s'appelle lui-même, tout comme le médecin qui va se charger de lui, ben, névropathe. Hein. Alors, pathe, bien sûr, pathos, c'est la pathologie, quoi, c'est malade, et névrose, c'est bien sûr le système nerveux, quoi, hein. C'est-à-dire, bon, ben, la machine à penser, quoi. En gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, 1903, Schreber publie Mémoire d'un névropathe, et c'est en 1911 que Freud lit cet ouvrage et puis dit « Bon sang, mais c'est bien sûr tout ce que j'ai compris du côté de la névrose pendant même, on va dire, une quinzaine d'années, enfin même 25 ans, eh bien je peux essayer d'aller un petit peu explorer ce monde de la psychose dont j'ai si peur, en quelque sorte. Mais j'ai des clés qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe. » Et alors, à ce moment, il publie un article qui s'appelle « Le cas Schreber ». Voilà, et il explique, avec les éléments théoriques qu'il avait mis à jour chez les hystériques, il explique, en gros, qu'est-ce qui doit se passer chez le président Schreber. Alors, en un mot, bien sûr, ce président Schreber subit tous les outrages et il se considère, en gros, comme l'envoyé de Dieu, mais il est persécuté en permanence. Donc là, on sent vraiment une paranoïa pas possible. Il est persécuté en permanence. Et par qui? Ben, bien sûr, le bon médecin qui soigne, quoi, en gros. Et c'est assez souvent que dans la paranoïa, ce que l'on appelle le persécuteur désigné, c'est la personne qui est la plus proche. Et alors, forcément, bien souvent, c'est le conjoint. Et puis, si c'est pas le conjoint, c'est le voisin. Si c'est pas le voisin, c'est... Bon, de loin en loin, quoi. Enfin, quand il n'y a personne qui vit avec cette personne, ben, bien entendu, on va chercher un petit peu plus loin l'humain qui a suffisamment de relations, mais qui, bon, malheureusement, est pris comme un persécuteur. Et la persécution en question, ben, bien sûr, dans le récit de Schreber, donc vous pouvez le lire directement, ou bien lire l'article de Freud, là, qui... Le cas Schreber, c'est dans 5 psychanalyses. Hein, alors, il y a le Moral, le Moulou, le Petit Hans, et puis le cas Schreber. Quoi, hein, voilà. Bon, ça, c'est facile à trouver dans n'importe quelle bibliothèque universitaire, en tout cas. En tout cas, à Lyon 2. Quoi. Bon, la cato, j'espère. Et quand on écoute le discours, ben, bien sûr, il est non seulement envoyé Dieu, mais en plus, le médecin qui le traite, finalement, n'a qu'une obsession, c'est de vouloir le prendre par derrière. Et puis, bon, voilà, une homosexualité incroyable. Et bien entendu, Schreber a tout un tas de fantasmes qu'il déroule. Et en gros, la phrase la plus drôle qu'il donne, bon, drôle quand on reste complètement extérieur, « Ah, qu'il doit être bon d'être femme et d'être prise par Dieu, le Père ou je ne sais qui, etc. » C'est-à-dire, bon, tous les fantasmes et les délires sont toujours liés à peu près à la même sphère. Voilà. Donc, en gros, pour Freud, il prépare ses concepts qu'il avait découverts sur une autre structure, et il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il fait bien le diagnostic de la psychose paranoïde, donc c'est une paranoïa, on dit, hein, paranoïa, donc ça veut dire à côté du moi, c'est-à-dire, le moi, c'est une structure un peu plus ancienne, enfin, je ne sais pas bien comment vous l'expliquer, c'est-à-dire, il y a plusieurs explications dans la structure mentale ou psychique. La première version de Freud, c'est l'inconscient, le préconscient et la conscience. Et puis, il y a une deuxième version qui essaye de coller un petit peu plus et qui est un peu plus tardive et qui est le ça, qui est tout le réservoir des pulsions, la biologie, pour faire simple, hein, les hormones et tout le reste. Le moi, qui essaye un petit peu de, bien sûr, satisfaire ses pulsions, mais quand même tenir compte quand même des contraintes sociales. Et puis enfin, une troisième instance, le surmoi étant une représentation des lois de société qui régissent la société, en gros, pour faire très très simple. Hein. Donc, la paranoïa, c'est donc quelque chose qui se tient à côté du moi, qui prend le pouvoir par rapport à la vie du sujet en question, et quand même, dans le cas de la paranoïa, c'est quand même non seulement des hallucinations, comme vous pouvez le comprendre, hein, puisqu'il n'y en a que pour Dieu le Père, ou bien ce médecin et persécuteur, mais également, il y a aussi un délire très construit et très solide, et la caractéristique de ce délire, c'est d'être d'une logique implacable. Voilà. Et que du coup, on va dire pour faire très simple, le point de départ est faux, hein, le postulat de départ du paranoïaque, alors je fais des généralités là, mais le point de départ du paranoïaque est faux, mais dès qu'il a commencé son raisonnement, il a une logique implacable, et de ce fait, le délire est très construit, et très convaincant en plus. Et bon, c'est très difficile de l'attaquer. Attaquer, je veux dire, c'est même pas le mot qu'il faut. Hein. C'est très difficile de le déconstruire ou de lui montrer qu'il a tort. Et en général, le paranoïaque se persuade de plus en plus qu'il a raison. Et l'autre caractéristique, c'est que non seulement il croit mordicus à son délire, mais en plus il est quérulent, et donc ça vous amène ces personnes qui vont faire des procès à tout le monde, voilà, en disant « je suis dans mon bon droit », etc. Alors bon, j'espère que là vous reconnaissez un certain nombre de paranoïaques, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup dans nos sociétés, mais enfin bon, prenons simplement les personnages historiques les plus illustres, hein. Quand je parle de paranoïa, on ne peut pas ne pas penser à Hitler, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire, bon, râle et pâquerette, il a une constatation qui est fausse, mais une fois qu'il est parti sur ce préambule, après, oh, il va pouvoir détruire, je vais dire, toute l'humanité jusqu'à se détruire lui-même. Voilà. Et la caractéristique de ces personnes qui sont quérulantes, c'est qu'elles sont capables de lancer des procès qui n'en finissent plus, même si elles sont sûres de le perdre. Les personnes veulent avoir raison pour se faire rendre justice, d'avoir été pris par derrière, etc. Enfin bon, je ne veux pas trop en rajouter, je vous invite à voir Salaud et 120 jours de Sodome, parce que c'est exactement le problème. Donc je ne sais plus si ça passe bientôt, je crois. C'est fait, bon, c'est plus à faire, c'est épouvantable. C'est épouvantable comme film, mais alors là, vraiment, c'est vraiment des salauds, quoi. Hein, là, vraiment, hein, là, vraiment, c'est incroyable. Bon, c'est clair, quoi. Alors, c'est courageux de la part de l'auteur de l'avoir fait, puisque lui-même était homosexuel. Mais alors là, vraiment, c'est assez incroyable, quoi, ce qu'il est. démontre que cette République de Salo, c'était des fascismes italiens, en gros, qui piquaient des jeunes gens, prolétaires de préférence, mais très beaux. Et alors, c'est les différents outrages qui leur font subir. Enfin, c'est bon. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est que la paranoïa, voilà, allez voir ce film, si toutefois il passe encore. C'est exemplaire comme... Oui, monsieur, oui, non, mais tous les dictateurs, quoi, en gros. Hein, je vais vous redonner le texte tout à l'heure. On va retrouver cette atmosphère incroyable. Je vais répondre d'abord, bien entendu, quand on regarde un petit peu comment a été élevé ce brave président Schreiber, on s'aperçoit que son père, lui-même, était donc un soi-disant pédagogue, gymnaste et je ne sais quoi, et qui faisait des traités sur comment dresser les enfants, et particulièrement les garçons. Et quand on lit les manuels de savoir-vivre du père, on est terrifié en disant, mais finalement, le bon docteur Schlesing y est pour rien, c'est en fait le père qui voulait le prendre par derrière avec sa schlag et machin et je ne sais quoi. Et alors à ce moment, bien sûr, on commence à comprendre ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire l'enfant se structure en fonction de son environnement, et là c'est son père et sa mère, et donc là l'idéologie. Alors je crois qu'il y a un autre film que je vous recommande, si vous voulez voir, c'est Le Ruban Blanc. Alors là c'est exactement aussi la question, et oh, vraiment, c'est inimaginable, quoi. Alors, bon, donc il y avait une question. Oui, oui.
Vous avez dit que l'exemple du paranoïaque le plus connu serait Hitler, et vous avez dit que son postulat initial était juste...
Non, faux. Faux. Il parle de... Non, bah en gros, il dit c'est la merde, on s'est fait piner par les Français, c'est la faute aux Juifs, machin. Bon, c'est pas tout à fait le problème. Mais une fois qu'il est parti sur cette conviction, alors bon, il faut éradiquer tous les Juifs, puis ensuite les Gitans, puis les catholiques, puis les communistes, puis les bolcheviques, puis je sais pas quoi. Enfin, et donc, il faut envahir, raser, machin, quoi. Paris brûle-t-il, quoi. Hein, c'est... Oui. Non, il y a juste le premier niveau où il déconne, mais après, c'est diabolique, quoi. Bon, ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que c'est que la paranoïa, et puis, bien entendu, tout de suite, ça vous donne un petit peu l'idée de qu'est-ce qu'on entend en psychose, hein. Toujours hallucination et délire, plus ou moins construit, plus ou moins solide, et là, avec la parano, bon, alors, bien entendu, non seulement ils sont quirulants, mais... C'est les meurtriers, quoi. Parce que pour faire entendre raison à une femme qui ne veut pas en entendre, rien en entendre, eh bien on la tue, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Bon. Ça fleurit de plus en plus, quoi. Hein. Vous avez, même chez les jeunes, quoi, hein, qui arrivent avec les je ne sais pas combien de fusils à pompe et autres matériels de guerre, tue 200 personnes, et puis se tue qu'à la fin. Mais s'il avait commencé par lui, c'était réglé, la question, quoi. Hein, mais alors, pendant longtemps, on disait, bon, ces Américains, machin, c'est Columbine, hein, ou je ne sais quoi. Puis maintenant, on s'aperçoit que c'est bien plus général. En Europe, maintenant, ça commence à se répandre. C'est bien qu'il y a un délire derrière qui dit que, bon, celui-ci, celui-là, machin, je sais pas quoi, puis même, de toute façon, ils se valent tous, c'est tout de la merde, ils m'ont pas assez aimé, je sais pas quoi, ou trop, ou pas assez, bon, je tire dans le tas, puis c'est tout, quoi. Hein. Bon, bon, et puis on peut rien faire, quoi, si ce n'est l'abattre, quoi, pratiquement, hein, les paranos... On n'en sort pas vivant, quoi, d'un combat avec un paranoïaque, quoi. Ils ont vraiment toute la panoplie, et regardez le nombre de cartouches qu'ils embarquent, hein, et il y a toujours 5 ou 6 pistolets, fusils, mitrailleurs, et je ne sais quoi, et le nombre de chargeurs est incommensurable, quoi. C'est pas une personne qui est désignée, non, c'est, on va dire, à la grosse limite, c'est l'humanité. Voilà, on va retrouver ça. Hein. Donc, alors maintenant, on va essayer d'introduire un petit peu la psychose.
L'éducation de nos jours est beaucoup moins coercitive
qu'au début
du siècle.
Oui, mais alors là, on va rentrer dans un débat, je ne voudrais pas trop pousser, mais au siècle précédent, hein, au siècle précédent, hein, au XXe. J'ai connu un bon bout, on vivait dans la terreur, et ça a donné beaucoup de névrosés énormes. Ça fait beaucoup d'universitaires, quoi, et d'étudiants, quoi. Hein. En gros, pour faire simple. Et maintenant, alors, patatrac, c'est le laxisme. Je pousse un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que vous allez apprendre vos leçons, faire des devoirs, machin, alors que c'est tellement facile en boîte, là, avec les machins qui tournent, machin. Non, mais tu déconnes, puis de toute façon, alors bon, je me mets sur, comment ça s'appelle, Facebook, hein, et puis j'ai plein d'amis, et je leur demande de régler mes problèmes de maths. Alors, de toute façon, mais, vous voyez. Eh bien, qu'est-ce que ça amène? Eh bien, c'est plus la névrose, on n'a plus peur de perdre nos génitoires. C'est que maintenant, on n'a plus de limites. Alors là, les états limites qui n'arrêtent pas de bouger, là, vous les voyez. Mais vous en avez 50 000 dans la ville, là. Allez simplement à la sortie des boîtes, vous allez voir. Et puis surtout, beaucoup plongent dans des choses qui ressemblent étrangement à la psychose, quoi. C'est-à-dire, bon... C'est de ne pas avoir eu cette butée de la réalité fait que, bon, où sont les limites? Comme dirait la chanson, là, je ne sais plus comment c'est, là, quand les bornes, passer les bornes, il n'y a plus d'état limite. Ben, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de structure, quoi. Et alors, aller demander à des le mot qui me vient, c'est étudiant, mais je sais que déjà chez les écoliers, leur demander de suivre un cours d'une heure, c'est trop. Il y a encore 2-3 ans, je faisais des cours de 2 heures à l'université, et puis quelques temps avant ma retraite, on a rétréci 1h30, parce que les étudiants ne pouvaient plus supporter 2 heures. Et alors, forcément, dans les écoles secondaires ou primaire, je ne sais pas comment, on fait des séquences de 10 minutes, quoi, comme avec les autistes, quoi. C'est-à-dire, sinon, ils sont harassés, vous passez dans les couloirs, ils sont avachis dans les couloirs. Enfin, je ne veux pas en noircir le tableau, mais je réponds à votre question, c'est-à-dire, j'ai l'impression que le laxisme, la perte de l'autorité, si j'ose dire paternelle, quoi, hein, c'est-à-dire, même les pères sont des papapoules, quoi, hein, c'est-à-dire, baisser le pavillon. Alors, avant, c'était trop dur, alors ça, c'est Ruffaut qui explique bien ça, hein. Avant, le père était jamais là, mais en plus, c'était une vraie terreur, et puis maintenant, il est là, mais il est mou, quoi, enfin, c'est... Et du coup, comment l'enfant peut-il se structurer? Ben, il peut pas, parce qu'il est collé aux jupes de sa mère, qui lui passe tous ses caprices, et donc du coup, c'est la toute-puissance, et c'est le principe de plaisir. Alors, je prêche pas pour un côté ou pour l'autre, mais j'aimerais bien qu'on revienne à quelque chose de plus équilibré. Et c'est pas propre à l'Occident. En Chine, c'est rigoureusement la même chose, pour une autre raison, c'est que, comme c'est l'enfant unique, c'est l'enfant roi, et comme c'est l'enfant roi, c'est l'enfant tyrannique. Parce que, bon, c'est un objet précieux, puisqu'en plus il est mâle, les femelles, on les a évacuées, hein, donc, bon, mais c'est absolument diabolique, quoi. Mais bon, l'environnement, oui, va favoriser la structuration d'une façon ou d'une autre, tout comme, si je raisonne en généticien, l'ADN, c'est rien sans un environnement qui lui donne les machins. De même, la structuration du cerveau, c'est rien. Il y a des milliers de réseaux de neurones qui se connectent, mais si l'environnement ne vient pas stimuler, ben, les réseaux, ils tombent, quoi. Voilà, c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, il y a un continuum des gènes, des neurones, et puis de la structure psychique qui découle de ce fonctionnement. Ah oui, mais attendez, j'ai pas lu Eugène, là. Il faut quand même dire deux mots de Gégène. Voilà, alors bon, bien sûr, Carl, si vous voulez, avant 1906, Carl Jung expose l'idée du détachement de la libido du monde extérieur dans la psychologie de la démence précoce. Voilà, donc alors, il faut que je vous raconte l'histoire. C'est que, alors Freud a fait sa petite avancée, bon, il est content, mais bien entendu, il n'a jamais vu le bon président Schreber, hein, puis il ne veut pas le voir, hein, il a fait son boulot d'après le bouquin, puis voilà, c'est tout, hein, il s'intéresse, mais il ne prend pas de patient psychotique, ou encore moins paranoïaque, ni d'enfant du reste au passage, hein, donc bon, voilà, il reste très prudent. Mais, par contre, il lit. Il lit bien sûr tout ce qui paraît. Et depuis quelques années, il y a un groupe suisse, à Zurich, qui publie tout un tas de choses sur ce qu'on appelle maintenant la schizophrénie. Ils arrivent à le théoriser, et bien sûr, l'âme de ce groupe, c'est Eugène Bleuler. Et Bleuler a un élève, et qui s'appelle Jung, justement. Alors, il publie, et là, en l'occurrence, 1906, Psychologie de la démence précoce. Et là, ça intéresse bigrement Freud, parce que, justement, il y a l'idée de détachement de la libido du monde extérieur. Et à ce moment, on commence à comprendre, puisque Freud avait pensé que le carburant de la machine à penser, c'était l'énergie sexuelle, la libido, en un mot, qui va donc expliquer les troubles chez ces hystériques. Vous reconnaissez peut-être un tout petit peu les différents éléments, puisque Freud a fait son stage de clinique à Paris, chez Charcot, Charcot. Et que donc, bien entendu, Charcot utilise l'hypnose, et donc Freud reprend l'ensemble, et puis va utiliser l'hypnose également, au moins au début, puis après il va s'apercevoir que toutes les avancées dues à l'hypnose, finalement, étaient éphémères, et qu'il fallait recommencer le boulot, donc il va changer de dispositif. Alors, donc, bien sûr, si cette énergie sexuelle qui correspondrait en gros à une énergie psychique, qui donnerait le carburant de la machine à penser, se détache du monde extérieur, alors à ce moment, il peut émettre une hypothèse, et je vais vous essayer de vous la donner, parce que c'est une des façons de se représenter la psychose, alors c'est pas forcément la seule, mais elle mérite peut-être d'être... C'est que, en gros, pour le psychotique, et donc plus particulièrement pour le schizophrène, mais aussi pour le paranoïaque, le monde est insupportable. Voilà. C'est-à-dire, ce principe de réalité, là, c'est de buter à notre principe de plaisir. Ce monde étant insupportable, incontournable, eh bien, on fait un déni de cette réalité, premier temps, et deuxième temps, eh bien, à la place, on construit ce que Freud appelle une néo-réalité. Voilà, c'est-à-dire, on invente un monde qui n'existe pas. Voilà, on est donc là dans l'hallucination d'un monde. Alors forcément, ça veut dire qu'il y a peut-être des secteurs sauvegardés, et quand vous êtes face à un psychotique, c'est vrai qu'il parle, et que bon, il peut être très intelligent sur beaucoup de plans. Puis à un moment, il y a un petit secteur... Là, il dérape. Voilà, c'est-à-dire, je ne vais pas trop pousser, mais c'est ce qui se passe avec les sectes, en gros. Et celle qui est la plus célèbre en psychiatrie, c'est les Témoins de Jéhovah. Alors, bon, en gros, c'est des gens tout à fait raisonnables sur tous les plans, mais sauf sur un petit secteur, le secteur de Dieu, je ne sais pas quoi, pas exactement quel est leur truc. Mais là, alors, c'est mordicus, vous pouvez pas dire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas rien rétorquer, parce que cette réalité comme quoi Dieu n'existe pas est tout à fait insupportable, n'est pas cohérente avec tout ce qu'ils ont de sensible, et alors à ce moment, ils font le déni de cette réalité, pour moi, mais je ne sais pas si vous la partagez. Et alors, à ce moment, ils vont projeter leur monde intérieur, qui est sans doute merveilleux, tout-puissant, etc. C'est-à-dire, bon, le principe de plaisir qui plaque sur la réalité. Donc, c'est une néo-réalité, c'est donc une hallucination. Alors, là, quand on parle d'hallucination, il faut définir un tout petit peu plus trois stades. Premier stade, c'est la perception. C'est ce que vous faites, je pense, tous, sauf si vous êtes témoin de Jéhovah ou de scientologie, je ne sais pas, c'est que si je parle, vous m'entendez et vous comprenez ce que je dis. Bon, alors je ne sais pas, je peux me pincer, je peux faire, vous aussi, vous pouvez faire tout un tas de tests, mais en gros, je suppose que toutes les personnes qui sont là peuvent échanger à propos de ça. Voilà, sont à peu près d'accord que je parle, pour peut-être ne rien dire, mais enfin bon, je parle et voilà, c'est un fait, c'est une perception. Et puis, vous avez un autre stade qui est un tout petit peu plus effrayant, c'est le stade de l'illusion. C'est-à-dire, cette illusion, c'est, ça se présente comme une perception du monde extérieur. Vous avez envie d'y croire, mais finalement, quelque chose en vous, on va dire, dans votre moi ou dans votre préconscient, dit que, ah, c'est trop beau, ou c'est pas conforme à ce que je sais par ailleurs, c'est typiquement ce que vous savez être un mirage. Voilà, vous savez, quand on est dans le Sahara, et puis qu'il commence à faire chaud, que ceci, cela, vous commencez à avoir soif, et à un moment, vous commencez à avoir des nappes de flotte qui vont... Alors, il suffit d'avancer, vous allez tomber sur la nappe de flotte. Bon, mais... Comme vous n'êtes pas stupide, vous savez que dans ces conditions-là, c'est peu probable que vous tombiez sur un lac. C'est plutôt, on l'appelle un désert. Il n'y a pas d'eau, justement. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de garde-fous qui fait que vous avez une illusion, mais vous savez que c'est une illusion. Voilà. Vous n'adhérez pas à votre perception. Et puis alors, quand les bornes sont dépassées, alors là, c'est là qu'il n'y a plus de limite. C'est que, toujours de la même façon, vous pouvez avoir l'hallucination. Et l'hallucination, ça se présente comme la perception, comme l'illusion, mais là, il n'y a aucune instance chez le sujet, dans sa machine à penser, qui lui dise « Attention, peut-être que tu déconnes. » Non, j'y crois complètement, j'y adhère de toutes mes forces. Alors à ce moment, bien entendu... C'est difficile de communiquer parce que à ce moment, les mots n'ont pas forcément le même sens.
C'est le problème d'hypnose.
Voilà, tout à fait. Et dans le monde scientifique, on est des fois sous la coupe. L'idéologie aussi nous amène à tout un tas de choses. Voilà, il faut rester assez souple, assez ouvert, en disant, bon, peut-être, moi je le vois comme ça, mais finalement, à t'écouter, c'est pas mal non plus. Alors à ce moment, vous êtes assez souple et donc vous dites, bon, je suis au moins... Pas psychotique, quoi. Voilà. Voilà, bon, donc, le père Sigmund a les oreilles qui pointent du côté de Zurich, hein, bien entendu, et il invite Jung à venir faire une conférence pour un petit peu, voilà, qui, ça va marcher quelque temps, et puis même, dans la période difficile, Jung va même prendre la présidence de la société de psychanalyse. Quoi. Ben, c'est le seul qui n'est pas juif dans le lot et que du coup, pour sauvegarder la structure, il est peut-être bon que ce soit un arien qui... Je ne sais pas quoi. Enfin bon, ça vous donne une petite idée de l'importance stratégique du rapprochement de Freud et de Jung. Alors, un tout petit peu plus tard, malgré que il fait des observations depuis longtemps, c'est Eugène Bleuler. Alors, c'est le patron de la clinique Burzoli, si ma mémoire est bonne. Voilà. Il crée le terme de schizophrénie et décrit trois caractéristiques. Voilà, donc, alors, schizophrénie, pourquoi ? À cause de ces trois éléments. Mais revenons à l'étymologie. Phrénos, alors c'est des détours un petit peu, mais... Vous devez l'intégrer. Phrénos, c'est la respiration. Et le seul mot qu'on ait en français qui reste, je crois, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais moi le seul que je garde en mémoire, c'est diaphragme. Phrénos, c'est phrénos. Voilà. Tout simplement parce qu'on pensait que la vie correspondait à la respiration. La preuve, c'est que quand on ne savait pas si la personne était morte, on mettait un miroir, s'il y avait de la buée, donc si la respiration était chargée de vapeur d'eau, alors à ce moment on considérait que le sujet était vivant. Voilà. Donc on pensait que, et on le retrouve encore alors dans la Bible, et, hein, le souffle de la vie, etc. Yahvé, il souffle dans sa petite statuette d'argile, puis plouf, hop, ça y est, je suis vivant. Tiens, boum, voilà. Oh, merde, on s'emmerde. Tiens, je vais lui piquer une côtelette et puis je vais lui faire une femelle. Et puis il prend et il trouva que c'était bon. Voilà, bon, ben, c'est à peu près ça. Et Adam aussi, en fait. Donc voilà. Peu à peu, on a pensé que la vie, c'était l'âme, et que l'âme, c'était la respiration, et que donc, du coup, tous les êtres vivants respiraient, et puis etc. Voilà. Donc, dans le monde grec, ancien, on a cette idée que quand ça respire, c'est vivant, et ça pense. Voilà. Mais, donc, peu à peu, phrénos correspond à notre, non seulement notre cerveau, mais notre pensée, notre esprit, notre âme. Mais ce qu'apporte Bleuler, c'est de dire, ben voilà, certains patients, eux, ils ont cet esprit qui est coupé en deux, si ce n'est pas en trois ou en quatre. Et alors, quand on coupe, comme vous le savez, on a gardé le mot en français, on scie. Voilà. Et bien entendu, un tout petit peu plus loin, c'est la schise. Et donc, bien sûr, la schizophrénie, ça veut dire que l'esprit est au moins fendu en deux, si ce n'est pas en trois ou en quatre. Et bien entendu, ça veut dire qu'une partie se projette sur une personne, l'autre partie se projette sur une autre. Et vous connaissez les personnalités multiples, où vous avez une fragmentation de l'esprit en peut-être trois ou quatre ou cinq ou six, et les personnes peuvent se projeter sur plusieurs personnages, et donc ils ne sont jamais là où on les attend, quoi, en gros. Et la conséquence de ça, c'est que la personne peut parler d'un objet. Voilà, alors je vais prendre cet objet-là et je vais dire, ben, cet objet est blanc. Mais ça n'empêche pas que cet objet soit noir. On va le reprendre. Voilà. Et pourquoi ? Ben parce qu'une partie de son esprit le voit blanc, l'autre partie, pour d'autres raisons, le voit noir. Or, à ce moment, ça veut dire que dans l'esprit, il n'y a pas de principe de non-contradiction à un certain niveau, et que donc, du coup, c'est compatible, mais ça s'appelle une psychose, quoi, alors que dans l'esprit habituel, c'est pas tout à fait comme ça. Bon. Alors, donc, Bleuler crée le terme de schizophrénie et décrit les trois caractéristiques. Un, le clivage, voilà, tchac, un coup de hache. Deux, les troubles associatifs. Et trois, les troubles affectifs. Voilà, et donc il regroupe tous les patients dans le groupe des psychoses schizophréniques. Alors on va reprendre ça, je regarde un peu si ça vaut la peine d'aller prendre peut-être deux ou trois choses pour vous introduire à quelques concepts de la psychiatrie qui puissent peut-être vous évoquer des choses. Voilà, 1919, on va le dire. Hein. Tost publie donc un ouvrage sur l'origine de la machine à influencer dans la schizophrénie. Voilà, alors ça vous le retrouvez dans les psychoses en général, dans la paranoïa et puis dans la schizophrénie. C'est quand le sujet commence déjà à avoir pas mal d'hallucinations, puis toutes ces hallucinations réunies, il trouve que ça a du sens, cet ensemble, et à ce moment, il construit un délire. C'est-à-dire, il construit un scénario qui relie tous ces éléments. L'élément le plus typique, c'est qu'il a des voisins qui le persécutent et qui, progressivement, le persécutent en ouvrant le gaz. Et que le gaz passe sous la porte et puis vient en quelque sorte l'asphyxier, ou bien font un vacarme exprès pour l'empêcher de dormir, etc. Et puis même les voisins, rien que le voisin dans son regard, j'ai vu qu'il cherche à m'influencer et il a le mauvais œil, etc. Enfin bon, c'est tout un truc et que du coup, il m'en veut à mort. Je n'arrive pas à dormir parce que je suis persécuté, c'est à cause du voisin, etc. Au bout d'un moment, comprenez que la chaudière commence à monter, elle peut exploser, et à ce moment, il peut très facilement passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça veut dire ne plus rester simplement dans ses pensées, c'est vraiment dire, bon ben, J'ai qu'une façon de pouvoir rester vivant moi-même, c'est d'aller tuer le voisin parce qu'il il a tout un tas d'éléments qui vont me faire perdre l'esprit. Voilà. C'est-à-dire, et qui me rend fou en quelque sorte. Alors, bien entendu, ces hallucinations, c'est que bien souvent, ce sont des ritournelles et qu'il entend des voix et qu'il voit un certain nombre de choses, il ressent un certain nombre d'éléments et que. Bien entendu, c'est son monde intérieur qu'il projette sur autrui et qui vient en retour sur lui, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, la source, elle est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Alors, 1921, Kretschmer, qui a étudié beaucoup de schizophrène, là aussi, développe la notion de constitution schizoïde sur la structure de corps et le caractère. Bon, laissons ces oppositions. On ne les utilise plus. Et puis, toujours la même année, Hermann Rorschach publie son ouvrage « Psychodiagnostic ». Et, bon, alors, peut-être deux mots de Rorschach. Il est fou de peinture et d'encre. Et il essaye de faire des dessins, des tableaux, des je ne sais quoi. Mais il est maladroit comme tout et il renverse toujours ses encriers. Et au bout d'un moment, son père dit « Mais tu fais la collection des taches d'encre, je ne sais quoi. » Et il n'empêche qu'en parallèle, il fait des études de médecine. Et bien entendu, il se trouve à Zurich. Et bien entendu, il est dans l'équipe de Bleuler. Et il s'intéresse à ce que Freud publie. Et il sélectionne un certain nombre de ces taches, si vous voulez, qui les unes sont en noir et blanc, d'autres avec des couleurs, et il les présente à ses schizophrènes, voilà, et ça lui donne des résultats extraordinaires, et il arrive à le théoriser, tous les éléments. Alors bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est devenu un des tests psychologiques. Alors hein, les psychiatres l'ont laissé tomber, mais c'est les psychologues cliniciens qui sont patentés pour faire passer le test du Rorschach. Et alors, c'est quelque chose d'extraordinaire pour comprendre la structure psychique. Et alors, je crois que le Rorschach a adhéré au groupe de psychanalystes zurichois, mais qu'il n'a pas vraiment fait la jonction avec Freud lui-même. Et bon, c'est une énigme de pourquoi ça ne s'est pas fait. Et il est mort très jeune, ce qui fait que peut-être il aurait pu la peut-être développer un peu plus. Bon, voilà, retenez ce nom, c'est un peu compliqué à l'écrire, mais bon, c'est quelqu'un de très important. Alors, 1922, alors peut-être restons encore une petite minute pour cette coupe. Voilà, Jasper fait une analyse pathographique de quatre schizophrènes, et c'est le... Et c'est le point de départ de beaucoup d'études de psychanalyse, d'utiliser la création et les différents auteurs qui font des créations littéraires ou poétiques ou dramatiques, parce que c'était déjà Freud qui le faisait, s'intéressant soit à Homer, soit à Shakespeare. Là, c'est dans la tradition, donc de Strindberg, Van Gogh, Swedenborg ou Elderlin. Je vous donne quelques noms de français peut-être et puis d'autres que vous connaissez déjà, donc ça vous remettra dans le bain de ce qu'on a déjà vu. Voilà. Alors, un psychiatre très fameux, Henriet, a fait beaucoup pour introduire les concepts de Freud en France, publie Remarques critiques sur la schizophrénie de Bleuler. C'est-à-dire, bon, ben, je trouve que c'est un concept important, donc il va le divulguer, et du coup, ça va se répandre en France. 1927, c'est De Clérambault qui publie Psychose à base d'automatisme et syndrome d'automatisme. Alors, c'est la suite de La machine à influencer. Et donc, bien sûr, c'est les automatismes de la pensée qui sont bien décrits, avec en plus des séries de photos sur les étoffes, sur tout un tas de choses, pas dire de perversion, mais enfin bon, c'est assez savoureux de suivre. Alors ensuite, Sakel, on l'a déjà vu, Meduna, Moniz et tout ça, Serletti, vous les connaissez. donc les électrochocs et les différentes thérapies de choc. Hein, mais c'est bien entendu, vous rappelez, c'est presque toujours des schizophrènes qui font les frais de ces thérapies de choc. Alors, peut-être... Oh, c'est bon. Je crois que maintenant, pour que on puisse pousser un tout petit peu plus loin, je voudrais vous lire un texte, enfin, des éléments de texte d'un auteur fabuleux. Voilà, c'est Benedetti, qui est donc, comme son nom l'indique, un Italien, qui a publié, il y a maintenant sans doute une dizaine d'années, un ouvrage fantastique sur justement la schizophrénie et la psychose de façon générale, et qui s'appelle « La mort dans l'homme ». Voilà, alors je vous recommande la lecture pour ceux qui veulent vraiment pousser assez loin. Et là, j'ai quelques pages qui devraient vous donner un petit peu l'atmosphère de ce que vivent les schizophrènes. Alors c'est pire que du Hitchcock, hein, à mon avis, si on pousse plus loin. Dans la communication avec un schizophrène, le patient vit la perception qu'il a de l'autre comme des transformations de son propre mode d'être. Voilà, hein. Donc, le patient vit la perception qu'il a de l'autre comme des transformations de son propre mode d'être. Il est transformé dans son soi le plus profond par les rencontres avec ce soi avec le monde, et il y a plusieurs étapes que Benedetti essaye d'isoler puis d'illustrer. Alors là, c'est juste des extraits, hein, parce que c'est vite pénible, hein, de lire comme ça, mais d'écouter la lecture, je crois que ça vaut la peine. Alors, voyons quelques-unes de ces étapes. Première, l'identité négative. L'existence est réduite à la sensation de non-existence. C'est-à-dire pour ressentir son existence, il suffit de se laisser influencer par la sensation de non-existence. Sensation de ne pas exister. Alors ça vous rappelle ce que j'ai dit du nourrisson là, qui a peur de s'effondrer, hein, de disparaître, d'exploser, etc. Sensation de ne pas exister, conséquence de la fragmentation de l'esprit, la schizophrénie, hein, rappel, dissolution de la structure mentale qui détruit l'existence, existence négative. Il est donc impossible d'analyser le rien. Donc, on ne peut analyser que la relation que l'on établit avec le patient, sinon on contribue à sa fragmentation. Voilà, c'est la position du thérapeute là, qui donne. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est pas confortable. Accroché aux ceintures. Des airs de mort. Dans certaines conditions de vie, il y a création d'espaces vides où les potentialités humaines ne se développent pas. Il n'y a pas de structuration de l'inconscient. Ce sont des zones neutres ou muettes, des trous noirs de la pensée. Alors ça, c'est manifeste chez les autistes. Hein, et ça, c'est Frances Tostin qui donne un coup de projecteur avec ce titre, le trou noir de la pensée. Mais bon, quand on travaille avec des autistes, on le ressent, mais vraiment de façon invraisemblable. Ces aires de mort sont internalisées, introjectées, hein, mises à l'intérieur, et l'air intrapsychique se remplit de trous de mort, d'absence. Elle se déchire, puis disparaît. Le sujet éprouve la sensation de mort psychique. La relation psychothérapeutique, ne peut que tenter de mettre un peu de substance dans ces zones. Voilà, donc c'est une autre modalité. Alors, troisième modalité, donc l'existence empruntée. Une modalité de la non-existence est la totale identification du patient avec les images que les autres ont de lui. Voilà, c'est pour exister, il faut que ce soit l'autre qui vous donne le feu vert pour exister. Donc, forcément, c'est un jeu de miroir.
Il perd son moi et vit seulement au crédit des autres, grâce à ces images que les autres ont de lui. Donc c'est ça, hein, l'existence empruntée. L'effort pour s'adapter à ces images incohérentes équivaut à la perte de toute autonomie. Voilà, c'est-à-dire on est toujours à l'affût de qu'est-ce que l'autre pense de moi. Donc pour que je puisse me penser, il faut que je sache ce que l'autre pense. Et donc du coup, forcément, on est toujours dépendant de l'autre. Ce n'est pas seulement une dépendance affective dont il s'agit, mais de création d'un patient qui devient une chose, une image, une pensée de l'autre. Le malade continue à vivre comme certains morts de Pirandello. Ils vivent dans l'esprit de ceux qui furent leurs proches, mais sans visage propre. Le vivre dans un autre est l'antichambre de la néantisation, puisque la pensée n'est existante que pour le moi qui pense. Bon. Oui, non, mais bon. Il y a une grande différence entre un, tous, personne, et le véritable schizophrène qui a une peur folle d'être personne et qui s'entoure de miroirs pour se saisir dans l'image projetée par tous les murs avant qu'il ne devienne transparent, révélant la grimace du rien. Quatrième sourate. On retrouve hein, les thèmes, bien entendu, hein, parce qu'il y a des chiens pour pas des chats. Bon, je fractionne, parce que sinon je ne peux pas faire tenir. 4 donc. Hein. L'objectivation schizophrénique et le délire d'influence. Dans les processus d'identification empathique, nous nous introduisons dans autrui pour le comprendre, découvrant ou supposant des fragments de nous-mêmes. Voilà, ça c'est les jeux de neurones miroirs. Alors ça, spontanément. On se sent semblable. Une telle perception fait défaut dans les états psychotiques. Pourquoi ? Y a-t-il une défense contre certaines expériences post-natales, juste après la naissance ? Rencontre avec un autre possessif, agressif, menaçant, fait des intrusions, ou ce que dit Winnicott, des empiétements, et qui donc vous empêchent de vivre vraiment ? Y a-t-il une faiblesse du moi résultant de faits constitutionnels et acquis et qui fait constamment courir le risque au patient d'être envahi, même par un autre inoffensif? Alors là, on retrouve hein, l'intrusion, la persécution, la prise par derrière, etc. Enfin, tout un tas d'éléments. Voilà. Une barrière autistique empêche l'identification empathique. Laquelle, un autiste, hein, ça veut dire qu'il se replie sur lui, donc il n'y a pas moyen de s'identifier à l'autre. Alors là, au passage, alors, je reprends la thématique par rapport les dictatures et surtout le nazisme, là, en l'occurrence, mais je crois que le stalinisme fait pareil. La première chose que faisaient les nazis, c'était de tatouer avec un numéro. C'est-à-dire perte d'identité propre. Et donc, du coup, ça devient une chose, un stuc, en allemand. Une barrière autistique empêche l'identification empathique, laquelle empêche l'expérience constitutive de l'être humain. L'expérience de demeurer sans confusion possible, soi-même, tout en découvrant des fragments semblables à des degrés moindres égaux chez l'autre. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on explore l'autre qu'on est l'autre, donc on peut rester soi-même, et on est d'autant plus soi-même qu'on va explorer l'autre. Voilà, je vous relis. L'expérience de demeurer sans confusion possible soi-même, tout en découvrant des fragments semblables à des degrés moindres, égaux, chez l'autre. Cette différence dans la ressemblance cette altérité dans l'interprétation, cette auto-identité dans la dualité constitue le mode fondamental de l'être homme. L'acte d'identification à l'autre est dépourvu de l'angoisse typiquement schizoïde d'une perte d'identité. Alors, bon, là, il insiste un peu sur les autistes, hein, mais... parce que l'autisme représente une psychose infantile. Les autistes se frappent eux-mêmes pour tenter de se percevoir eux-mêmes, et cette barrière auto-perceptive, ajoutée à la barrière autistique, n'autorise pas le processus de socialisation. En général, il existe toujours quelques canaux imparfaits qui permettent au sujet un certain contact avec lui-même.
Alors ça, les autistes, ils arrivent, certains arrivent à sortir de leur autisme, et après ils racontent. À ce moment, ils reprennent la parole et ils expliquent ces éléments. Donc, tout comme dans toutes les maladies mentales, il y a toujours une instance qui reste vigilante, mais des fois, ça ne peut pas s'exprimer, sauf à essayer de quelque chose du côté d'une forme de guérison.
En général, il existe toujours quelques canaux imparfaits qui permettent au sujet un certain contact avec lui-même. Mais dans la psychose, ils font défaut pour parcourir l'arc de cercle qui devrait relier le schizophrène à l'autre, qui demeure ainsi éloigné, étranger, absent.
L'objet n'est pas investi libidinalement. Hein, c'est-à-dire l'objet sexuel sous-entendu, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il est bon d'échanger un certain nombre ou de paroles ou d'actes ou de... je ne sais quoi, ben ça n'est pas investi, donc du coup, puisque ça reste un étranger, j'ai rien de commun, donc du coup je ne peux pas aller faire un commerce avec autrui. Alors j'ai encore deux pages, si vous êtes patient.
Cet objet non investi, hein, investi au sens économique du terme, hein, c'est-à-dire, bon, si il y a quelque chose auquel vous tenez, vous mettez de l'argent dessus. Ben là, vous mettez de l'énergie libidinale, comme l'étant entendu. Cet objet non investi, éloigné, étranger, informe seulement de l'altérité et jamais de l'identité. Voilà. Donc, du coup, ces caractéristiques font que, oui, il est très différent de moi, et donc, du coup, je ne peux pas faire la jonction, je n'ai rien de commun. Et jamais de l'identité. Un tel objet devient immédiatement dangereux, au sens pré-signifiant du mot, c'est-à-dire de façon indépendante de ses connotations sémantiques. Le patient phobique ou obsessionnel parvient à maîtriser l'angoisse déclenchée par l'objet grâce à certains rituels.
C'est-à-dire donc les rituels vont écarter l'angoisse, on doit la réduire.
Mais le schizophrène l'éloigne de façon radicale et typique, en le réduisant à un pur mécanisme.
Et là encore, là, il faut le souligner, à une machine.
À une machine dont le patient veut connaître tous les rouages.
Voilà. Quitte à les démonter, et puis aller chercher les viscères, hein, et puis et de manger les beaux morceaux. Non, mais c'est il y a plein les journaux, hein, si vous lisez Détective, vous allez en voir... des tonnes, hein, de...
Il lit les pensées des autres et parle en prévoyant ce que l'autre dira, fera, pensera. Cette mécanisation de l'autre,
alors là aussi on reconnaît bien la machine industrielle d'abattage d'humains, de les brûler, etc. Enfin, c'est le stade suprême de l'éradication de l'humanité.
Cette mécanisation de l'autre correspond au processus de désanimation autistique qui est à la racine de la sensation psychotique d'influencer l'autre. Influencer pour désanimer, mécaniser, éloigner, tuer. Mais c'est aussi être réduit à l'état d'objet de mécanisme par l'autre.
Voilà, c'est-à-dire, bien entendu, puisque l'autre, c'est pas un humain, c'est une machine, une bestiole, ch'tuc, ou je ne sais quoi, ben, comme il est aux aguets de ce que l'autre pense pour pouvoir lui-même se représenter, ben, forcément, c'est-à-dire que lui aussi est une machine, lui aussi est un animal, ou lui aussi est une chose. Et donc, il va choir un déchet, quoi, en gros.
Ce qui manque, c'est l'expérience de similarité qui nous fait sentir notre soi, même dans des cas de manipulation réelle, comme quelque chose d'irréductible, de toujours égal face à celui qui veut nous dominer. Dans la psychose, cette expérience de rester soi-même, y compris dans la sphère d'action d'autrui, elle a sa poésie, hein. Je vous la reprends. Dans la psychose, cette expérience de rester soi-même, y compris dans la sphère d'action d'autrui, y compris à travers la haine, l'amour, l'intérêt de l'autre, fait défaut. La défense est alors d'introduire la catégorie rationnelle de la causalité dans le monde magique.
Ben, c'est là la néo-réalité. Puisque ce monde est insupportable, alors à ce moment, je vais le créer, ça va être magique. Bon, leur Dieu tout-puissant, machin, je ne sais pas quoi, la résurrection, je ne sais pas quoi. Bon. Tout y passe.
La défense est alors d'introduire la catégorie rationnelle de la causalité dans le monde magique. Les interprétations magiques deviennent alors des processus pseudo-rationnels de persécution et sont sujettes au plus rigoureux déterminisme.
Là, on voit toute la puissance de la paranoïa.
Cette expérience consciente d'être déterminé, reflet du vécu du patient d'être réduit à un mécanisme, lui permet cependant la pseudo-compréhensibilité d'un monde réduit à des lois d'action et de réaction dont il est à la fois la victime et l'artisan.
Alors, en lisant ça, je ne peux pas ne pas penser aux kamikazes là, qui se font sauter. Là. Il y a pas de... là, ils ont été... Le bourrage de crâne a bien fonctionné. C'est une machine à tuer, en quelque sorte.
Alors, bon, c'est une vieille histoire. Hein. Alors, bon, je donne juste les titres, hein, parce qu'il y en a encore 15. Hein.
Mais bon, il faut aussi être raisonnable.
Voilà, la haine de soi comme conséquence de l'existence négative. La pensée, le moi pensant, se vit comme un invertébré, puis progressivement comme un cadavre en putréfaction. Tout est anxiogène,
il se hait lui-même. C'est la suite logique, quoi, puisqu'il a détruit par la pensée les autres humains, les autres soi-même en quelque sorte. Forcément, il a un effet de boomerang, puisqu'il s'identifie à celui qui est en face de lui, forcément, ça lui revient dessus, et lui-même se dégrade complètement.
L'universalité de la haine, le monde et le moi comme négation réciproque.
Voilà, alors là, bon, ça explique notre société moderne de terreur et de compétition à tout craint, bon, et de suicide derrière, quoi, hein, le management, quoi, en gros. Hein, tout. Bon, ben, voilà. Vous êtes prêts pour passer une bonne nuit? Non, mais j'essaie de répondre à vos questions, peut-être, hein, si vous voulez bien.